Canalem, on aime l'été. Cette bonne chaleur, que j'en entendais se plaindre. Je ne supporterais pas, je ne tolérerais pas qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne de la chaleur. On est assez gelé. Comment c'est dans votre coin de pays? Est-ce qu'il fait aussi chaud que par chez nous? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Qu'aux îles de la Madeleine, en ce moment, il fait beaucoup plus frais grâce au vent et à la mer. Bonjour François Baruel.
Bonjour Clotilde.
Soyez-vous, François, et tous les auditeurs, et c'est Clotilde celle qui vous parle, donc soyez les bienvenus à cette émission. Aime l'été. Alors François, à l'émission aujourd'hui.
Alors aujourd'hui à l'émission, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. La résilience par exemple, la résilience, il connaît. L'acceptation, il connaît. La paix avec la vie, malgré une condition difficile, il la connaît bien aussi. Entrevue avec Sébastien Damme, auteur de Pourquoi pas, à ne pas manquer. Après les sentiments, les séquelles. Quand les amours d'été s'envolent, je vous raconterai. Elisa Bellache nous emmène dans les coulisses du théâtre de verdure.
Et ensuite,
alors que les pitbulls et les blessures qu'ils infligent aux humains frappent encore.
Et oui, c'est d'actualité.
Eh oui. Nous écouterons le témoignage de Lise Vadney, dont l'assassinat de sa sœur par un pitbull a fait l'objet d'un livre. Attention, chien dangereux. Emmanuel Robitaille nous offre un nouveau billet sur les biais cognitifs dans sa série. Passionnante. Et enfin, Véronique Audy est agente de développement à la MRC d'Arthabasca. Elle nous présente la caravane des bouquiniers qui se mettra en route le 5 juillet prochain.
Quelle belle journée, quelle fraîche matinée. Quelle joie de te rencontrer. Curieux, je pensais justement à toi. Dis-moi comment vas-tu? Dis-moi qu'es-tu devenu? Et puis comment va José? Il y a longtemps que je l'ai vu. C'était les jours où j'étais en amour. C'était le temps où tout était trop court. C'était les jours. Oh, moi, ça va très bien. Je joue à Québec demain. Dis, as-tu écouté mon 33 tours? Il y a quelques chansons là pour toi. Dommage, je dois te quitter. Tu sais, je suis trop occupé. Il faudrait bien se rencontrer, s'asseoir et puis parler. Parler des jours où j'étais en amour. Parler du temps où tout était trop court. Parler des jours où j'étais en amour. Curieux, je ne pense qu'à ça. Thank you.
Quelle belle journée. C'est à la fois le titre de cette pièce de Gilles Valiquette et le constat qu'on fait lorsqu'on met le nez dehors par ce beau temps qu'il fait en ce 2 juillet.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je dis Sébastien parce que mon œil rencontre le nom et le prénom de notre invité qui est déjà au téléphone. Sébastien Dame, bonjour.
Bonjour.
Sébastien, nous avons ici une recherchiste qui s'appelle Claire Guérin et qui est quelqu'un de terriblement enthousiaste lorsqu'il s'agit de gens qu'elle aime et de gens qu'elle appuie et dont elle appuie la vie. Et c'est exactement votre cas. Sébastien Dame, en quelques mots, vous êtes atteint de la sclérose en plaques. Vous avez été diagnostiqué en 2011. C'est la forme primaire progressive dont vous êtes atteint. C'est bien ça?
Exactement.
Et c'est une maladie incurable et vous le savez et vous vivez avec.
Effectivement, puis on tente de profiter de la vie au maximum.
Au maximum. Je voudrais citer une citation de votre livre que Claire justement m'a pointé du doigt. Elle est de Nelson Mandela qui a dit « Il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. » Êtes-vous un passeur de paix, un passeur d'essentiel, Sébastien Dame?
Mais en fait, moi, ce que je suis, j'ai vécu une expérience qui est difficile, clairement, qui amène une série de deuils. Et moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à faire la paix avec la vie, tout simplement. Et ce que je fais, c'est que je partage, on va dire, les semences que j'ai récoltées dans mon jardin intérieur.
Mais quand vous dites... Pardon, allez-y, pardon. Faire la paix avec la vie, ça veut dire que j'imagine qu'il y a eu un moment difficile au moment du diagnostic. Il y a un moment où on perd pied.
Effectivement, sur le coup, en fait, quand on reçoit le diagnostic, c'est que l'effet que j'ai eu, c'est « Ah, enfin, je comprends ce qui se passe. » Parce que là, j'avais différents symptômes, dont la fatigue, j'ai subi des chutes. Et là, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Là, ça vient mettre un peu des mots sur les mots.
Mmh. Oui, c'est ça. Oui. Des mots MOTS sur les mots MAUX, c'est ce que vous voulez dire.
Hein? Exactement.
Vous êtes diplômé en ressources humaines et en santé et sécurité au travail. Et vous étiez gestionnaire en prévention des accidents de travail. On ne peut pas parler d'un accident de travail, mais d'un accident de vie que vous n'avez pas vu venir, évidemment.
Effectivement, c'est la maladie qui est le volet santé. Quand on fait de la prévention, en fait, on essaie de prévenir autant les accidents que les maladies.
Alors, comment vous faites? Oui, bien sûr. Mais comment vous faites alors pour passer au-dessus? Parce que Claire m'a dit, tu vas lire son bouquin, que je n'ai pas eu assez le temps de lire, je vous l'avoue. Et comment on fait pour choisir la vie et le temps qui nous reste?
En fait, je pense que on a deux choix. C'est soit qu'on regarde l'épreuve qu'on a traversée, puis les limitations qu'on a, puis on dit, on met le focus, on met notre attention sur ce qu'on n'est pas capable de faire, puis on est triste, puis on nourrit cette tristesse-là. Certains peuvent le vivre en colère, ça dépend des différentes personnes, mais donc ça dépend juste où on met notre attention. C'est sûr qu'on regarde ça, où on regarde ce qu'on est capable de faire, et on essaie de profiter au maximum de nos capacités. Et puis, même si les capacités sont très limitées sur le plan physique, on n'en demeure pas moins que j'ai encore la capacité de réflexion, de partage, etc. Donc,
comment peut-on passer de la phase de colère ou de révolte contre ce diagnostic qui est évidemment injuste à la phase de sérénité et de paix avec soi-même?
Moi, un des outils qui m'a aidé, c'est la méditation. Donc, par la méditation, on apprend à observer la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et on apprend à accepter la réalité du moment. Et donc, on s'entraîne tranquillement comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la paix avec la vie, je dirais.
C'est-à-dire qu'il faut essayer d'accepter la situation, mais il faut aussi réagir quand même.
Pour la réaction, dans le cas de la maladie que j'ai, c'est comme c'est incurable, il n'y a pas rien qu'on peut faire vraiment. Donc, il reste juste à l'accepter en bout de ligne. Et rien faire dans des situations comme ça, c'est clairement pas si simple.
Non, c'est ça. Mais vous, vous faites, entre autres, vous écrivez beaucoup. Vous avez écrit comme des chroniques, hein, des rubriques, appelons-les comme ça, sur Facebook. D'ailleurs, vous en avez tellement écrites que vous avez sorti même un bouquin que j'ai dans la main et qui s'appelle « Pourquoi pas ». Est-ce que ça, vous avez l'impression que ça vous aide à, permettez-moi l'expression bien québécoise que j'adore, à passer au travers?
Ah, effectivement, ça m'a permis, moi, de documenter mes pensées, mes observations et le fait de le publier en fait sur Facebook, parce que pendant 3 ans j'ai publié des textes. Ce que ça a permis de faire, c'est parce que moi ça m'a permis personnellement d'aller plus loin, c'est sûr. Je pense que le documenter pour moi-même dans mes notes personnelles, ça aide. Mais le fait de l'avoir publié, ça m'a forcé à polir mes idées puis à aller plus loin, c'est certain. Là.
Sébastien Dame, vous devez avoir non pas peut-être rassurer des gens, je suis désolée, c'est le mot qui me vient, mais vous avez dû impressionner bien d'autres personnes qui sont peut-être atteintes comme vous par ce mal incurable, et vous avez dû les amener peut-être sur justement le chemin de l'acceptation, comme le disait bien le docteur François Baruel.
Ben, effectivement, j'ai eu des feedbacks intéressants suite au lancement du livre, à la publication. J'ai eu aussi les commentaires des gens sur Facebook qui ont lu mes textes au fur et à mesure. Mais je dirais le plus important là-dedans, c'est que moi, ça m'a permis d'aller plus loin et ça permet à certaines personnes de faire des prises de conscience et d'améliorer leur vie en diminuant leur souffrance et en prenant la vie d'une autre perspective. Ça, dans ce sens-là, je suis très content. Si ça peut aider un maximum de personnes, tant mieux.
C'est ça votre réaction. C'est essayer d'aider un maximum de personnes, en fait.
Ouais. Ben, effectivement. Je me dis,
mais ça vous aide vous aussi, Sébastien. Pardon de vous avoir interrompu. Hein? Vous aussi, ça vous aide à...
Je suis le premier bénéficiaire de ça, en fait. Ouais. Je profite de... Là, je reçois le lancement du livre, en fait, c'est une grande vague d'amour.
Ouais, oui.
Sûr, puis, m'amène... même de la joie d'aider les gens, tout simplement.
Et la vague d'amour va encore déferler, Sébastien, parce qu'ici, à Canalem, on vous aime déjà énormément. On apprécie ce que vous faites, on apprécie ce message que vous faites passer. Et je suis convaincue qu'il y a bien des auditeurs, du moins je l'espère, qui vont se ruer sur ce bouquin, pourquoi pas. On se le procure comment, ce livre-là?
C'est possible de se le procurer en écrivant à l'adresse email 8... Pourquoi pas, tout dans un mot, 8, le chiffre 8, à gmail.com. Donc 8, pourquoi pas, à gmail.com.
Merci tellement, Sébastien.
Merci beaucoup.
On aurait aimé pouvoir vous avoir près de nous, vous serrer la main, vous embrasser. Vous n'êtes pas près de nous, mais on le fait pareil, vous le savez. Hein?
C'est bien, c'est gentil, je le ressens.
Allez, merci Sébastien, passez une belle fin de journée.
Merci de votre temps, bonjour.
Au revoir.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la souffle sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Madrague, chantée par Bébé, Brigitte Bardot, bien sûr, un autre thème très estival.
Sur la plage abandonnée. C'est pas par hasard hein, si on a mis cette chanson-là, François Baruel.
Ben non, bien sûr.
Ah, oh, cœur déchiré après l'été, c'est terrible. C'est de ça dont vous nous parlez.
Il n'y a pas que les cœurs.
Oui, qui sont déchirés, oui, oui. Non, c'est vrai, il y a les tendons. Y a... Alors, allons-y.
Allons-y.
Comme nos...
Souvenez-vous de cette musique? Oui, Claude Lelouch. Un homme et une femme. Un oukémé tout en élégance et retenue. Jean-Louis Trintignant, viril, rassurant. La Ford Mustang à la mode. Les promenades romantiques sur la plage de Deauville en Normandie. Se fabriquer des souvenirs à grands coups de pied dans l'eau, d'étreintes langoureuses au bord de la plage. Souvenez-vous, un été 42, Jennifer O'Neill, splendide, sensuelle, éplorée. Gary Grimes, puceau timide en chasse d'une première fois. Quelles histoires d'amour! Je vous souhaite d'en vivre de semblables, chers amis, pleines de sentiments qui réchauffent le cœur et échauffent les sens de la vie. Profitez de l'été, de la chaleur, des vacances, du temps, pour trouver l'âme sœur d'un soir, d'un jour, d'une semaine, peut-être une fille. Sait-on jamais ? Cupidon est souvent habile dans la vie réelle, mais en vacances, il est parfois bourré ou aveuglé par le soleil. Et les souvenirs que vous rapportez ne sont pas toujours du meilleur. Ils sont parfois cuisants, ces souvenirs. Ils piquent, ils font mal, ils coulent, ils brûlent. Ils font des boutons, des rougeurs, ils courent sur votre pubis. Un vrai champ de bataille après l'amour. Et vous regrettez. Oui, vous regrettez d'être atteint d'une maladie d'amour qui n'est pas celle que chante Michel Sardou. Vous regrettez de ne pas avoir insisté quand l'objet de votre désir rencontré là vous a rassuré. T'inquiète pas, je suis clean. Vous n'avez pas un seul instant insisté tellement le feu de l'action vous rendait de braise, en espérant justement une bonne suite pour la nuit. Combien de fois j'ai entendu cette histoire? Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir tout prévu. Condom masculin, préservatif féminin, digue dentaire pour les plaisirs anaux et buccaux. Et pourtant, vous aviez rendu visite à votre médecin de famille, à votre pote ou votre copine. Ils vous ont tous dit de jolis mots et raconté de jolies histoires de syphilis, blénorragie, chaude pisse, chlamydia, morpion et plus encore, comme on dit dans les publicités. Et surtout le VIH, qui ne tue plus autant qu'avant, mais limite votre vie. Il est toujours une menace. En présence de boutons, d'une ulcération, des organes génitaux, des sécrétions anormales au niveau du sexe, des verrues mal placées, consultez rapidement un médecin. Presque toutes les IST peuvent guérir sans laisser de séquelles si elles sont traitées tôt. Les infections sexuellement transmissibles ont plusieurs origines et leurs agents contaminants sont nombreux. Bactéries, parasites, champignons, virus... Des... Détectés tôt, la plupart des IST, infections sexuellement transmissibles, peuvent guérir sans laisser de séquelles, je le répète. En revanche, lorsqu'elles sont négligées, elles provoquent des infections plus sérieuses. Les condylomes dus au papillomavirus provoquent des cancers de l'utérus chez la femme, parfois cancer du gland chez l'homme. La chlamydia peut générer des infections génitales graves, des grossesses extra-utérines, voire la stérilité. D'autres maladies peuvent avoir des conséquences sérieuses à long terme, comme la syphilis ou handicapantes, comme l'herpès. Par ailleurs, avoir une IST, c'est augmenter de façon importante le risque d'être infecté par le VIH. Car les muqueuses sont inflammatoires et sont donc susceptibles d'être plus perforées et traversées par le VIH. Il est donc nécessaire de traiter, mais aussi de traiter ses partenaires, son partenaire, même s'il ne ressent ou ressente rien. Et on ne le dira jamais assez, la seule façon de se protéger contre les IST, ce sont les préservatifs. Alors, rentrez ou sortez couverts, mais recouvrez-vous toujours.
Bon, eh ben dites donc, voilà un sujet, non, mais c'est vrai. Ben écoutez, les amours sur les plages.
Mais bien sûr.
Hein,
quelle merveille.
Pas. Bon, moi j'ai une question, puisque quand même vous avez fait fort. Alors j'en ai une autre pour vous.
Oui.
Je sais pas si je devrais. Je pense que ma carrière à Canal M s'arrête maintenant.
Je suis pas sûr.
À 11h51 et 30 secondes. Non, mais on dit toujours, je veux dire ça comme ça, je pense que c'est... On dit toujours qu'il ne faut surtout pas avoir de rapport sexuel complet dans l'eau.
Bah, c'est surtout, c'est épouvantable, parce que les rapports sexuels dans l'eau, c'est extrêmement irritant. Il y a le sel dans la mer, il y a le chlore dans la piscine, et il y a du sable en suspension dans l'eau. Il n'y a pas pire. Pour ceux qui ont essayé, dont moi, je vous garantis que c'est insupportable.
C'est vrai, à ce point-là?
Mais oui, ça n'a aucun intérêt. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt.
Non, parce qu'à chaque fois, tu sais, quel est le
non,
film
mais autant avoir du papier à sabler, quoi.
Bah
oui, parce que c'est vraiment un peu ça, hein. c'est jamais très propre l'eau de mer. Hein.
Donc c'est pas bien pour les deux finalement.
Non, c'est mauvais pour tout le monde.
Mais c'est pas plus souffrant pour madame, non? Encore une fois.
J'ai pas posé la question.
Non. Oh, bah vous auriez pu. Oh, les goujats. Oh, le goujat. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que ça partait très drôle, mais c'est vrai que c'est un sujet finalement qui ne l'est pas. Mais la façon dont vous l'avez amené quand même, c'était assez rigolo. Merci. Oui, c'est quand même assez éloquent et vous avez raison, je pense, de le dire. Le principal, c'est de se couvrir, quoi.
Bien sûr. Toujours.
Toujours, parce qu'on pense toujours.
Et prendre le temps de le faire.
Oui. Oui.
Prendre le risque de le faire. Parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu des garçons qui disaient « Ah ben non, mais attends, moi ça me gêne, et puis en plus ça me coupe mes effets, etc.
Ah »
etc. Oui. Ouais, mais...
À un moment donné, ça va revenir.
Ça peut être grave.
Ben oui.
Mais bien sûr, habitue-toi, exactement.
C'est parce qu'en plus, on pense toujours qu'au VIH, mais...
Il n'y a pas que ça.
Ben non, ben là, dites donc.
Plein d'autres.
On devrait faire une chanson avec des... Avec tous ces mots-là, ce sont des mots épouvantables. Il y avait une chanson.
La blénon, toum 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 toum, la syphile.
Il y avait Alain Leprest qui avait fait une chanson fantastique qui disait que tous les jolis mots sont absolument dégueulasses. C'est-à-dire que tout, comme, bon bah, je sais pas moi, blénorragie, chlamydiose, tu sais,
c'est quand même très joli. C'est pour compenser.
Mais c'est dégueulasse.
Mais c'est pour compenser ça.
Allez, on l'écoute.
Sanglots, carabines, Carmélite, Javel, Cobra, Charenton. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, Péplum, Cyanure, Mafioso. Tiananmen, Amen, rasoir et ciseaux. Hostie, Vatican, Jean-Marie, Mormon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et séville. Ouragan, menottes, acide, Tchernobyl. Atomes, neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom?
Clotilde l'annonçait, texte de Alain Lepresse, musique de Romain Didier, c'était Foulquier qui nous interprétait « Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom ».
Et des trois, il ne reste plus que Romain Didier. Hein. Les deux autres sont partis très très jeunes, Foulquier il y a maintenant quelques années, et puis Alain Lepresse aussi, un petit peu de la même maladie d'ailleurs. En tout cas, il faisait des bien bonnes chansons, puis celle-là reprise par Foulquier, alors ça c'était parfait. Mon petit François Baruel, nous allons nous retrouver d'ici 2-3 minutes avec... Je vais vous annoncer, restez donc des nôtres, tiens. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, François? On vous annoncera en tout début de la deuxième demi-heure ce qui va venir, ce qu'on va entendre à cette émission-là. Et vous allez avoir des bonnes surprises, je vous le dis. Restez là.
Écoutez, aime l'été.
Avec Clotilde Seille.
Oui.
Et François Baruel. Alors maintenant, c'est j'aime l'été, justement. Oui. C'est la période de l'été, des vacances, surtout de la verdure, et on est toujours dehors le plus possible. Nous allons avoir le programme du Théâtre de Verdure.
Oui, à Montréal, ici.
À Montréal. Des concerts font encore des ravages.
Eh oui, ça c'est malheureusement d'actualité, alors c'est l'occasion d'en reparler, surtout de parler du livre de Madame Vadnais.
Revenir, c'est un oui folle, celle de désobéir. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école et que tu n'as plus rien à rire. J'ai retrouvé mon chapeau à plumes, ma cravate en piano. Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue? Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue? Vas-y, lâche tout. Et Héloïse, ça fait 1000 ans que tu n'as pas joué dehors. Vas-y, lâche tout. Et Héloïse, ça fait 1000 ans que tu n'as pas joué dehors. Et la nuit. Faudra prendre tous les ascenseurs,
s'embrasser de ta façon. Chante-moi encore jusqu'à ce que ça casse. Viva, viva Las Vegas. Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue. Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue.
Entendre Patrice Michaud qui reprenait ici sa pièce Héloïse dans une version remix accompagnée de Africana Soul Sister.
Merci beaucoup Jean-Sébastien. Le réseau Accès Culture l'été va nous présenter des centaines de concerts, de spectacles, d'expos et d'activités à voir partout à Montréal et notamment les concerts Campbell qui sont présentés entre autres au Théâtre de Verdure. Et nous avons quelqu'un qui est tout attitré pour nous en parler, c'est Madame Elisabeth Lache, agente développement culturel du réseau Accès Culture. Bonjour Madame Bellache.
Bonjour.
On est bien content de voir que le Théâtre de Verdure reprend du service parce qu'il a été abandonné pendant quelques années quand même.
Oui,
au
mais
canard.
En fait, je dois préciser, ouais, mais je dois préciser que la programmation ne se déroule pas dans le Théâtre de Verdure, mais bien dans le parc La Fontaine, juste à côté.
Ah.
Et c'est ça, on fait ça depuis quelques années, en fait, dans l'attente où le Théâtre de Verdure sera rénové et on pourra y retourner.
Ah, alors pardonnez-moi, c'est parce que quand j'ai vu Théâtre de Verdure, j'ai pensé que
oui,
c'était...
Oui, on appelle la série Théâtre de Verdure dans le parc, donc
en fait,
ça apporte un peu à confusion, mais c'est juste à côté.
Il s'agit de quoi ces concerts Campbell, Madame Bellache?
Les concerts Campbell, c'est des concerts de musique, en fait, de tout type. On a la musique classique, la musique country, la musique du monde, la musique pop. Mm-hmm. Ça se déroule dans tous les arrondissements montréalais. Et ben en fait, le petit historique là, des concerts Campbell, c'est un avocat montréalais qui avait laissé à sa mort un héritage qui était dédié à organiser des concerts gratuits dans les parcs pour les Montréalais. En fait, oui. Il visait déjà à démocratiser la culture. Et ça, c'était en 1924. Donc, on réalise la 95e édition des concerts Campbell cet été.
OK. Et il y a un parc. Ah, pardon, François, vous allez-y.
Moi, je voulais savoir s'il s'agissait seulement de musique ou s'il y avait aussi dans ce théâtre. Et je me demandais si, comme c'est
dans les parcs,
j'entends parler
ouais.
de théâtre, est-ce qu'il y a aussi du théâtre?
Dans le cadre des concerts Campbell, qui est une série particulière, il n'y a que de la musique.
Oui,
parce que c'était ça qui était demandé dans l'héritage de M. Campbell. Quand on parle du réseau Accès Culture, par contre, ben là, on a de tout. Vraiment, ça se déroule dans l'ensemble des arrondissements montréalais. On a du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des activités jeunesse. Donc, on a vraiment un bel éventail d'activités.
Vous accueillez combien de personnes?
Mon Dieu.
Ça dépend des parcs, j'imagine, mais
ouais,
en gros.
Ça dépend quel parc. Ben, c'est vraiment des événements à taille humaine. Hein. Donc, ce qui est voulu, c'est des tailles autour de 250 à 500 personnes, peut-être.
On aime ça.
Donc,
ça, j'adore ça.
Ben oui, c'est le but, c'est que les familles puissent venir pique-niquer, les enfants peuvent courir autour. On n'a pas besoin d'avoir une surveillance très intense des enfants dans ces événements-là.
Dites-moi, moi, j'habite pas loin d'un parc qui s'appelle le parc Campbell. Est-ce qu'il va y en avoir aussi, là? Dans le parc
dans
qui
le
porte
parc,
son nom?
Oh,
non, c'est dommage.
Il est trop petit pour la scène mobile, en fait.
Ah, c'est ça.
Parce qu'on amène quand même les scènes mobiles qui se déploient dans les parcs. Puis celui-là est trop petit.
Mon Dieu.
Il est quand même... il a été créé grâce au même M. Campbell.
Alors, parmi les artistes qui vont faire cette tournée des parcs, d'abord, il y en a combien? Il y a combien de parcs? Combien d'artistes? Et pouvez-vous nous citer quelques noms?
Dans les concerts Campbell, en fait, on a à peu près 13 artistes, mais 24 concerts. Donc, il y en a qui vont faire plusieurs concerts dans des parcs différents. Dans les artistes, ben je peux commencer peut-être avec Africana Soul Sister. Là, on les entendait juste avant avec Patrice Michaud.
Oui.
Donc, un groupe super intéressant, ça bouge, ça danse. Mm-hmm. Donc, eux vont faire encore deux concerts. Et Jelly Tapa, qui est la chanteuse, en fait, du groupe Africana Soul Sister, qui vient d'être nommée Révélation Radio-Canada cette année, va faire aussi deux concerts dans le cadre des concerts Campbell avec cette autre formation, son nouveau projet à elle, en fait. Donc, elle, on peut la voir à Ville-Marie et dans l'arrondissement Huntsic.
Est-ce que le concert de l'Orchestre métropolitain, ça fait partie des concerts Campbell?
Oui. Oui, tout à fait. Oui, ça va avoir lieu le 25 juillet.
Le 25, au pied du Mont-Royal. Oui. Hein?
Exact. Avant, on le faisait en fait sur le belvédère du Mont-Royal.
Oui, je suis allée déjà.
Mais malheureusement, c'était impossible. On avait vraiment beaucoup trop de gens qui ne pouvaient pas entrer sur le site, étaient déçus, qui montaient sur la montagne. Mais là, on le fait là où il y a eu lieu le grand concert symphonique dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.
Bon.
Pour ceux qui avaient pu y assister, c'est qu'on a une vue merveilleuse sur tout le centre-ville quand même. On est juste au pied du Mont-Royal.
C'est un endroit magique.
À côté de l'avenue du Parc, ça va être très, très beau.
Et là, on aura l'occasion de revoir notre Yannick Nézet-Séguin national.
Oui, il sera là.
À la baguette. Oui. Sinon, j'ai vu quoi? Marco Cagliari?
Oui, Marco Cagliari, qui fait aussi deux concerts avec nous cet été, un à l'Île Bizarre et un à La Salle. Donc, lui, en fait, il célèbre ses 30 ans de carrière, il nous disait ça. Donc, on s'est dit qu'il a commencé bien jeune quand même.
C'est vrai.
Mais donc, il fait dans ce concert-là un peu un retour avec les différents projets sur lesquels il a travaillé. Donc, il va avoir des petites touches d'EV metal mélangées avec la musique italienne. Ça va être super intéressant aussi.
Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous parler du théâtre de la roulotte? Est-ce que c'est la fameuse roulotte qu'avait mis sur pied le fameux Paul Buissonneau?
Oui, c'est la même.
C'est la même?
Oui, la tradition se poursuit. Là, j'ai pas le nombre d'années exact. Là. Je pense qu'on est rendu à...
Ouf, et c'est pas plus.
60 quelques années.
Oui.
Cette année, c'est une création. Donc, c'est un texte qui a été écrit par un jeune auteur. Ça s'appelle Cache-Cache.
Mm-hmm.
J'ai eu l'occasion de voir la première. Là, c'est très, très drôle. C'est sur une espèce de troupe de magiciens un peu déchus qui va retrouver le pouvoir de la magie. Très sympathique.
Je vais vous aider. Il s'appelle Maxime Champagne.
Merci.
Ben, je vous en prie. Merci à vous de nous avoir envoyé le communiqué de presse. C'est à ça que ça sert, mon ami, à bien informer les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que j'avais vu aussi qui me semblait intéressant? Les indiscrétions publiques sont de retour pour une cinquième année. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Les indiscrétions publiques, en fait, c'est une troupe de théâtre qui, c'est un projet de théâtre in situ. Donc, ils se promènent dans le parc. Et on peut les entendre, c'est comme des conversations entre des acteurs que les gens peuvent écouter autour d'eux, donc ils vont être assis sur un banc public et on peut se mêler, mais en fait entendre qu'est-ce qui se passe. C'est super sympathique, ça aussi, ça plaît beaucoup.
Ça
on va le présenter, entre autres, dans le cadre du Stade de Verdure, dans le parc, au Parc La Fontaine.
Et au Parc La Fontaine.
Ça se promène aussi partout dans la ville.
La même manière, Shakespeare in the Park, aussi, qui sera présenté au Parc La Fontaine.
Oui, aussi.
D'accord. S'il pleut, on fait quoi?
Nous, en fait, on essaie toujours de faire le concert, peu importe. Donc, on prend la décision à la toute dernière minute.
Bon.
Ça peut arriver qu'il va arrêter de pleuvoir 10 minutes avant le spectacle. On essuie la scène et on le fait. Donc, il faut nous suivre sur les pages Facebook des différents événements ou sur la page Accès Culture.
Mm-hmm.
Si jamais c'est annulé, on va le mettre sur les pages Facebook. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est prenez le risque avec nous. Nous, les musiciens sont dans le parc, l'équipe technique est là. Et on essaie le plus fort possible de présenter la représentation. Si c'est dangereux, s'il y a des orages, évidemment, on doit annuler
sur les arbres,
des
évidemment. On peut peut-être donner, s'il vous plaît, le site, c'est
oui,
Accès Culture, hein, c'est ça. Accès Culture en un seul mot, pas d'accent.
Exact, accèsculture.com.
Oui.
Là, vous allez avoir l'ensemble de la programmation dans tous les arrondissements. Là. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc beaucoup pour la famille. Et sinon, les pages Facebook pour Accès Culture, il y en a une pour le Théâtre La Roulotte, une autre pour les concerts Campbell, pour les détails des annulations et des projets.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Bellache, voilà, Elisa Bellache. Merci infiniment
merci
de nous
beaucoup.
Avoir informés. Sortez le monde, sortez voir des artistes dehors, il
à
faut en
profiter.
Comment vous dites, Elisa?
À côté de chez vous.
À côté de chez vous, dans les parcs. Bon, ici à Montréal, on s'excuse évidemment pour les gens de la région dont on parle également à Bon abondamment souvent à cette émission, mais là, on a privilégié Montréal pour cette activité estivale. Et on remercie encore Elisa Bellache, agente de développement culturel du réseau Accès Culture, de nous en avoir parlé. Salut.
Au revoir.
Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget.
Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down.
It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember.
Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner.
Si vous êtes fringant de musique pop et que c'est le genre de musique que vous consommez l'été, bien sans doute que vous connaissez la pièce qui vient de jouer Timber, le plus grand succès de l'artiste floridien Pitbull.
Et oui, c'est pas par hasard.
C'est pas par hasard, parce que cette semaine, justement, encore deux affaires d'agression par des Pitbulls. C'est quand même ce dressage ou cette présence qui est très discutée.
Deux fois encore, hein, deux fois. Ce matin, c'est paru dans les journaux, un petit bébé dont la moitié de la face a été arrachée. Et ensuite, il l'a attaqué au bras. Et comme toujours, c'est un pitbull que la famille connaissait bien, qui connaissait bien l'enfant, parce que c'est ça le problème. Et on ne comprend pas. Bon, un pitbull de 7 ou 8 ans qui a été euthanasié tout de suite après.
Évidemment.
Alors oui, c'est toujours et encore d'actualité. Et j'ai reçu dans le cadre de mon émission en saison régulière, des livres pleins les oreilles, j'ai reçu Lise Vadnais qui a rédigé un document, un essai très, très fouillé, très documenté sur la dangerosité des pitbulls, d'autant plus que sa sœur, Christiane Vadnais, a été mortellement attaquée par un pitbull il y a maintenant, je pense, 2 ans. Et voilà, bon, toutes sortes de circonstances qui ont fait que ce chien-là était absolument hors de lui. Et la première chose qu'il a faite, ça a été d'attaquer cette femme-là. Est-ce que c'est par faim? Est-ce que c'est par... on ne sait pas. Ce que je voulais vous dire, François, à vous et à tous nos auditeurs, c'est que moi, j'ai fait longtemps partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a pas de pitbull dangereux, mais qu'il y a des chiens dangereux et qu'un golden retriever peut être aussi imprévisible qu'un pitbull, dépendamment de son passé, etc. Mais je suis en train de revenir sur ma décision. D'une part, après avoir lu ce livre, après avoir rencontré Madame Vadnais, et après ces deux récents accidents-là. Les choses bougent en faveur de la croisade que mène Madame Vadnais, parce qu'entre autres, on n'aurait jamais dit que c'était des pitbulls. On avait interdit aux journalistes de préciser que c'était les pitbulls parce qu'on était convaincus que les chiens étaient dangereux et qu'il suffisait de dire un chien dangereux à... Mais là, c'est arrivé deux fois avec des pitbulls et j'ai remarqué que les journalistes avaient écrit précisément que c'était des pitbulls. Je vous avouerai que je commence à repenser un peu à ma façon de penser et je voudrais vous faire entendre un extrait de cette entrevue que Lise Vadnais m'avait accordé dans le cadre donc de l'émission des livres plein les oreilles après que le livre Attention chien dangereux ait été lu et soit sorti et se retrouve entre autres sur notre site, sur notre plateforme de vente de livres livreaudio.vusezvoix.com. Voici Madame Vadnais à qui j'ai commencé par demander, je lui ai dit mais pourquoi l'avoir appelé chien dangereux, attention chien dangereux et pas attention pitbull dangereux, et elle m'a répondu ceci.
C'est sûr que je voulais qu'on parle du pitbull, mais je voulais que les gens ne soient pas comme bloqués de lire mon livre en voyant pitbull. Je lis pas ça. Fait que c'était comme une ouverture à aller chercher de l'information sur l'histoire de ma soeur, mais sur toute la recherche que j'ai faite par rapport au pitbull.
Et c'est pas une mauvaise idée, je pense, effectivement. Alors, cette image que vous devez avoir, parce que nous qui ne faisons pas partie de la famille Vadnais, moi qui ai lu ce livre, et je pense à tous ceux qui vont le lire avec les yeux ou avec les oreilles, l'image de votre sœur dans son jardin, dans sa cour, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont évoqués dans le livre, je ne le ferai pas à cette émission-là. Je comprends qu'elle doit vous hanter.
Oui.
Alors je me dis, Lise Vadnais, est-ce que c'est cette image-là qui vous pousse à continuer malgré tout ce combat parce qu'il existe depuis maintenant 2 ans et, ou est-ce que c'est l'espèce de, je sais pas, de folie des hommes qui fait qu'on a l'impression qu'ils protègent plus les chiens que les êtres humains? Qu'est-ce qui fait que votre combat...
Ouais, en fait, c'est oui, cette image-là, mais absolument pas juste cette image-là.
Non.
Ce qui m'amène à aller aussi loin, mais je ne l'avais pas prévu à la base, on s'entend, c'est par rapport à toutes les autres images qui m'habitent aussi. Mais je ne vous cacherai pas que l'image de ma sœur m'habite particulièrement. Je me réveille au milieu de la nuit, je la vois encore. Le soir, des fois, j'ai de la misère à m'endormir parce que...
Vous l'avez vue?
Je ne l'ai pas vue.
OK.
Mais c'est plus fort que
bien
moi
sûr.
Que d'imaginer le
bien
scénario,
sûr.
Qu'elle revient chez elle et tout ça. C'est plus fort que moi. Puis je ne pense pas être la seule dans la famille qui vit ça. Mais j'ai vu et entendu tellement d'autres histoires d'horreur. Et que les gens vivent avec les séquelles encore aujourd'hui, que c'est ça qui me pousse à continuer parce que je veux que les gens sachent jusqu'à quel point ça peut être horrible une attaque de pitbull. Puis je veux que les gens sachent aussi que c'est pas normal qu'un chien... Parce qu'un chien, là, moi j'en ai un, je connais plusieurs personnes qui en ont. La fille de Christiane a un chien. Ce sont des chiens domestiques de compagnie avec lesquels on a du plaisir et qui ne... Peut-être qu'ils vont mordre un chien, ça mord. On ne peut pas être à l'abri de ça, c'est clair, là. Mais en aucun temps, je peux imaginer qu'un chien mange un autre être humain. Ça, là, ça ne fait pas partie, pour moi, de la catégorie des chiens. Et c'est ça que je veux dénoncer, parce que le pitbull fait partie de ça. Je ne dis pas que tous les pitbulls font ça, mais le pourcentage de pitbulls qui attaquent par rapport aux autres chiens est tellement énorme, et les autres chiens qui attaquent n'attaquent pas comme le pitbull. Le
non,
pitbull.
Ils vont lâcher, ils vont mordre et puis à un moment, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ils vont mordre puis souvent pour des raisons particulières. On est capable de très bien comprendre pourquoi le chien a mordu, parce qu'il s'est senti, il a eu peur, parce qu'on est entré dans son espace, peu importe, on est capable de l'expliquer. Le pitbull, souvent, on est incapable de l'expliquer. Le cas de ma sœur, le cas du monsieur qui se promène dans la rue, qui fait son jogging, le cas de la dame qui promène son bébé.
Son enfant.
Son enfant.
On ne peut pas dire que l'enfant a fait quoi que ce soit.
Voilà, la gardienne qui a le bébé dans les bras, puis que le pitbull vient lui chercher dans les bras. Il y a plein d'exemples comme ça que je donne dans mon livre et que je vois à tous les jours qui arrivent aux États-Unis. Alors, je me dis, ça, il faut que les gens le sachent. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable et de dire que c'est une malchance, c'est un chien, qu'il a vécu quelque chose. Non, non, non. C'est trop fréquent pour qu'on fasse semblant que c'est banal.
Mmh. Et même si c'est le cas, il faut faire quelque chose.
Il faut faire quelque chose.
De toute façon. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes fin mars. Ce matin, je lisais dans la presse plus, et là, je vais la citer, Madame Goldwater, qui dit « Il est presque inévitable que je porte en appel la cause que je plaide pour sauver le molosse. » Elle parle là d'un molosse qui a mordu 6 personnes différentes. On parle d'une autre cause que celle de votre sœur Christiane. Madame Goldwater, Maître Goldwater, qui dit aussi « Je sais que bien des gens aiment les théories du complot, mais il n'y a pas de lobby pro-pitbull et personne ne finance cette démarche. » Ça fait sourire votre conjoint Gilles qui est là. Si elle était là dans le studio, Lise Vadnais, qu'est-ce que vous diriez en ce moment à Maître Goldwater?
Je dirais, Maître Goldwater, si vous aimez vraiment les chiens, si vous aimez vraiment les pitbulls, ayez pitié de lui. Il va pas bien. Il ne va pas bien, ce pitou-là. Là. Ce chien-là. La personne de la SPCA l'a clairement dit. Il est en piteux état, dans un état pitoyable. On craint pour la sécurité de nos employés. Il faut faire quelque chose. Elle a suggéré de l'envoyer dans le refuge aux États-Unis au plus vite, ce que je n'approuve pas du tout, parce que même dans le refuge là-bas, il va être aussi dans le même état, aussi dangereux quant à moi. Et aussi, ce chien-là avait aussi attaqué d'autres chiens. Alors, même si on le met avec d'autres chiens, c'est les autres chiens qui vont être dangereux. Ce n'est pas une bonne idée.
Et vous parliez de se mettre la tête dans le sable. Même dans ce refuge-là, je lisais dans le même papier, ils assurent qu'ils peuvent donner à ce chien, donc à ce pitbull, une vie normale malgré son passé violent.
Impossible.
Alors, là, l'autre question, avez-vous l'impression que le passé du chien est finalement beaucoup plus respecté que le vôtre, que le passé des êtres humains qui se font mordre ou qui se font tuer comme votre sœur Christiane? C'est incroyable.
Ce n'est pas de respecter le passé du chien, c'est de nier le passé du chien. Parce que c'est pas vrai que ce chien-là peut avoir une vie normale. Il a démontré clairement qu'il était capable du pire, autant par rapport aux autres chiens autour de lui que par rapport aux êtres humains. En quoi est-ce qu'on peut se permettre de prendre un tel risque? Surtout que quand tu adoptes un pitbull, ben j'espère qu'un jour on n'en adoptera plus parce qu'on ne pourra plus en adopter. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire semblant, si tu as un pitbull, que tu es à l'abri de ça. C'est impossible parce qu'on entend trop souvent un pitbull qui est attaqué et le maître qui va dire... Mais jamais il a été agressif, mon petit chien.
Alors que c'est ce qui arrive tout le temps.
13% des attaques de pitbull sont dirigées vers le maître.
Ouais.
Et 60-65% des fois, c'est par rapport à quelqu'un qui connaît. Le chien connaît le chien connaît la personne qui va attaquer. C'est terrible.
C'est ébranlant, François Barbuel.
C'est vraiment ébranlant. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a essayé de regarder le profil intellectuel, le profil moral des gens, des éleveurs de chiens, des propriétaires?
Alors, on en a parlé de cela, parce que vous avez bien compris que ce n'est juste qu'un extrait.
Oui, j'imagine.
Notamment, le propriétaire du chien qui a mordu et qui a tué sa sœur, bon, est un récidiviste, un malfrat récidiviste qui vivait dans des conditions épouvantables avec ce chien qui restait enfermé 12 heures de temps, souvent, et qui n'en donnait pas à manger. Bon, bah, le chien devient fou, furieux.
Bien sûr.
Il n'empêche qu'à ce moment-là, peut-être que le chien n'était pas un mauvais chien au départ, mais il n'empêche qu'il l'est devenu. Il l'est devenu pourquoi? Parce qu'il y a quand même un imbécile heureux, un type qui n'a pas... Vous savez, moi, je compare toujours les chiens pitbull à des voitures et à leurs conducteurs.
C'est un peu ça,
Vous pouvez tuer avec une grosse bagnole, mais vous pouvez tuer avec une petite Fiat 500. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien à voir. C'est la façon dont vous allez conduire la chose. Et le problème, c'est que les gens qui conduisent, qui ne parviennent pas à maîtriser leurs bêtes, et ces chiens-là ont, je pense, un potentiel dangereux. Et moi, d'ailleurs, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne punit pas les maîtres? Pourquoi est-ce que c'est... Alors, on ne leur ferait pas faire des travaux communautaires, des travaux avec des chiens à la SPCA, pourquoi pas? Mais ça ne se fait pas.
Pourquoi pas?
En euthanasie.
C'est surtout, est-ce qu'on a fait des statistiques sur les propriétaires de ces chiens? Est-ce qu'on sait quels sont ces propriétaires?
Tout est dans le livre de Madame Vadnais. C'est une excellente question. Je vais vous rappeler, si vous me le permettez, le titre de ce livre, Attention, chien dangereux, qui, comme je vous le disais, est très fouillé. Très documenté. Ils sont allés en procès, hein, ils sont allés, il y a eu... les choses ont... ce sont malheureusement ces drames qui ont parfois fait évoluer les choses, mais malheureusement aussi, on a pris quelques années de retard, parce qu'entre autres, quand Mme Plante est arrivée, il y avait une loi qui avait été passée par Coderre. Oui. C'était, il fallait mettre une muselière à tous ces chiens-là.
Oui, bien sûr.
La loi a été retirée. Mme Plante, elle considère que si on met la muselière à ces chiens-là, il faudrait les mettre à des milliers chiens. D'autres. Ouais. Voilà. Bon. Alors, le titre, Attention, chien dangereux, qui existe bien sûr sur papier et en version audio sur livreaudio.vusezvoix.com. On se retrouve dans deux petites minutes, François.
Oui, à tout de suite.
C'est Aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été.
Et nous voilà revenus en ondes. Saviez-vous qu'on était encore en train de parler des chiens? C'est sûr. Ah ouais. Et j'imagine que ça vous fait un petit peu le même effet chez vous, à la maison. François, on est tous éberlués, on se pose tous la question.
Comment ça se fait?
Voilà, comment ça se fait? Mais, et vraiment, j'insiste, il y a énormément de réponses, entre autres sur les propriétaires. Qui sont les propriétaires? Ce ne sont pas que des gens qui ont un passé criminel. Il y a parfois de très bonnes familles qui possèdent un de ces chiens-là.
C'est donc encore plus étonnant.
Et c'est encore plus étonnant, ce qui prouve bien qu'il y a peut-être un problème génétique. Moi qui pensais que ça ne pouvait pas exister, je reviens.
Les chiens sont des manipulations. Hein.
Oui.
Toutes les races de chiens sont des manipulations, puisqu'on part du dingo, en gros.
Oui, mais par contre, ils deviennent manipulateurs en fonction de ce que la main humaine a apporté. C'est-à-dire, ils ne sont pas manipulateurs à la naissance. Ils le deviennent. Ce n'est pas inné. En principe, la manipulation chez le chien.
Mais là, je parle de la manipulation génétique, puisqu'on les a, les a sélectionnés
Après
les autres.
Ah oui, absolument, mais ça c'est certain. Ça,
donc ils ont forcément des modifications génétiques, y compris cérébrales.
Exactement, exactement. Et ça, on peut pas le nier, vous avez tout à fait raison. Bon, on change de sujet, mon ami.
Plus gay.
Ben, je sais pas, plus gay, en tout cas, oui, plus gay. Oui, si. Un billet... sur les biais cognitifs.
Ah, ça, on a eu celui de la semaine dernière qui était passionnant.
Alors, on va retrouver tout de suite l'ami. Léon, on va faire un petit peu de musique pour lui laisser le temps de rentrer. Voilà, allez, chanson.
Laisse-la s'installer.
Le petit train du Nord et son personnel d'accueil souhaitent à nos aimables passagers un excellent voyage. D'un train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais allez donc débarquer. Quand le train fait 50 000 à l'heure et qu'en plus vous êtes conducteur, dans le train pour Saint-Adèle, y'avait rien qu'un passager, c'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager, si c'est pas la vraie petite douleur. Oh, le train du Nord, du. Le train du Nord, le train du Nord. Au bord d'un lac des petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme la mort quand il n'y a personne à bord. Dans le train pour Saint-Adèle, en montant la côte infidèle, le conducteur et puis le chauffeur décidé à débarquer et le train tout seul a continué.
Personne n'a pu l'arrêter. Paraîtrait qu'on l'avait filé dans le firmament la nuit passée. Oh, le train du Nord, tu, 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 tu. Le train du Nord, le train du Nord a perdu le Nord, rendu l'autre bord. Le train du Nord a perdu le Nord et c'est pas moi qui va le blâmer.
Comme tous les mardis, nous allons maintenant entendre la chronique d'Emmanuel Robitaille, qui va nous parler des biais cognitifs.
Comme tous les mardis, je viens vous parler de votre cerveau, non pas anatomiquement parlant, mais un petit peu plus comment il fonctionne.
Notre cerveau t'en remercie.
Côté psycho, on se paye la traite et on va se faire une autre chronique sur les biais cognitifs. Je vous ai fait un petit topo en début de saison. On se rappelle un peu c'est quoi les biais cognitifs et non pas un biais de train, biais comme dans biaisé. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis que notre cerveau prend pour émettre un jugement ou prendre une décision qui ne passe pas par un processus qui est analytique ou rationnel, mais qui a la prétention de le remplacer. Ce qui fait que ça nous mène malheureusement souvent à avoir des pensées fausses, à avoir une lecture de la réalité et tirer des conclusions biaisé, comme le dit le terme. On se comprend? On se rappelle qu'on utilise ces biais-là, tout le monde, à un moment ou à un autre. Certains plus que d'autres, puis on en a des préférés aussi. À chaque personne a son biais préféré. On les utilise quand on manque de temps pour émettre le jugement sur la situation, quand on manque d'intérêt pour bien comprendre la situation ou d'information sur le sujet, ou encore qu'on manque de capacité analytique tout court, on n'est pas capable d'analyser. Cognitivement, on ne l'a pas. Ou quand on veut se protéger ou se préserver, bref, quand ça fait émotionnellement ou moralement notre affaire. OK?
Oui. Je trouve ça très bien résumé. C'est d'une clarté.
Et on a commencé la série...
Ah, tout à fait, oui.
Mais non, mais c'est quand même
ah, oui,
ça.
Oui. Ah oui, c'est ça.
Et on a commencé la série avec le plus fréquent, qui était le biais de confirmation, qui tend à discréditer tout ce qui ne confirme pas ce qu'on pense et à chercher tous les faits, tous les éléments qui, au contraire, nous confirment et nous donnent raison. Cette semaine, au menu, un deuxième biais cognitif, c'est le biais d'autocomplaisance.
Ah, ça, c'est intéressant, ça.
Oui. Gros mot, qu'est-ce qu'il veut dire, ce gros mot-là? Le biais d'autocomplaisance, c'est la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs défavorables. Fait que c'est littéralement rendre le positif ou ce qui est émotionnellement agréable attribuable à des efforts ou des caractéristiques personnelles et à littéralement se déresponsabiliser de ce qui n'a pas bien été.
Autrement dit, c'est ça. Autrement dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de machin ou des circonstances.
Mais nous, on fait pas ça. Mais nous, on fait jamais ça. Mais on connaît tous quelqu'un quelque part qui le fait. Des exemples clairs, Clotilde, je t'entends. T'as-tu un exemple, Emmanuel?
Ben oui. Je te l'ai pas dit. Je voulais pas, comme la première fois, te mettre dans un embarras.
Complet, total, désarmé. Par exemple, si je réussis, c'est parce que je suis bon, parce que je suis intelligent, parce que si je réussis à un examen, c'est parce que je suis bon, parce que je suis intelligent, parce que j'ai beaucoup étudié. Si je coule mon examen, c'est que j'ai été malchanceux. Le prof a choisi des questions trop vagues, trop difficiles. Il y avait des questions qui n'avaient pas lieu d'être dans l'examen parce que c'était pas représentatif de la manière. C'était pas représentatif de la matière. Pas en tout, ça n'a pas été vu en cours, ça c'est génial. On l'a jamais entendu ça là. Ou encore, j'étais dans une mauvaise journée, j'ai la grippe, je suis fatiguée, mon colocataire m'a réveillée en rentrant d'un bar et ça a perturbé ma nuit et donc ma concentration. Et donc, j'étais sous l'emprise de facteurs qui sont hors de mon contrôle et qui ont diminué ma performance, qui autrement, on le sait très bien, aurait été exceptionnelle. Ou du moins, vraiment meilleure. Hein? Autre exemple, sur la route. On a plus tendance à attribuer nos erreurs de conduite à des causes extérieures comme la météo, la visibilité. Hein, les autres automobilistes sont toujours un petit peu moins bons que nous, on va se le dire. La signalisation, les travaux, c'était pas clair. Le panneau était pas clair, on le sait. Et,
il y avait un arbre devant.
Et les nids de poules, que dire des nids de poules? Tout ça étant de magnifiques exemples quotidiens qu'on a tous pigé dans le chapeau à biais d'autocomplaisance à un moment donné ou à un notre. Vous reconnaissez un petit peu quand même, j'espère. En toute humilité.
François dit rien.
Parce que le premier exemple sur l'examen, il y a aussi la question que tu poses immédiatement, c'est mais et les autres, ils ont réussi hein?
Non, mais on ne se rend jamais là dans le biais trop. Pourquoi on utilise ce biais-là, selon vous?
Par sécurité.
Sécurité de quoi?
Sécurité d'esprit, de morale, de ton égo.
Là, on est dans la préservation complète émotionnelle. Bien sûr, hein. On préserve notre image de soi justifie son estime personnelle. À la base, c'est pas mal que ça. Et on n'a pas besoin d'avoir une estime de soi fragile, nécessairement. Ça concerne tous les niveaux de confiance en soi. Mais si notre estime personnelle est très basée sur la performance et qu'on a un système de croyance de tout ou rien, déjà à la base, c'est-à-dire si j'échoue un examen, ça veut dire que je suis pas bon en général, je suis un perdant.
Ah oui, c'est ça. C'est ça.
Et que j'englobe toute ma personne et ma valeur à l'intérieur d'un résultat qui est positif ou négatif à quelque chose, bien, ça se peut que j'aie tendance à utiliser le biais de complaisance pour nécessairement protéger mon intégrité.
Vous ne me ferez pas passer pour un loser.
Parce que c'est trop menaçant. Et sérieux, la vérité, c'est que dans nos sociétés, surtout nord-américaines actuelles, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur nos résultats et sur la performance. On est élevé comme ça. Donc, l'utilisation du biais d'autocomplaisance peut être d'autant plus augmentée. C'est facile d'aller là. Le problème, c'est qu'il peut y avoir de la survalorisation et donc tomber dans le déni par surprotection. Et on ne peut donc pas admettre ses erreurs, échanger et, tadam, s'améliorer. Mm-hmm. On se comprend. Mm-hmm. Comment on peut changer, éviter le mieux qu'on peut ces problèmes, ce biais d'autocomplaisance? Bien, premièrement, quand il nous arrive une réussite ou un échec, prendre un papier crayon, faire deux colonnes, facteur personnel, facteur extérieur, s'assurer de mettre des choses dans les deux colonnes. Je vous vois venir. Ne trichez pas, il ne doit pas y avoir une colonne vide dans cet exercice. Et comme ça, on s'assure d'être un petit peu plus nuancé dans nos résultats. On peut aussi soit commencer par des échecs non menaçants et voir comment on peut être un petit peu responsable, en partie, parce que le but, c'est pas de tomber dans le tout ou rien non plus, là, mais de commencer à se réattribuer un petit peu la responsabilité. À mon party, il a pas levé. C'est-tu parce que... Bon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup annoncé à l'avance. Peut-être que j'aurais pu mettre de la musique plus entraînante. C'est pas vrai que le monde est juste plate puis qu'elle se passe un mercredi puis qu'il pleuvait, mettons. Ou encore, commencer par des victoires qui sont peu significatives pour soi et remettre dans les bras, donner le crédit à autre chose que soi-même. En partie, encore une fois. Par exemple, ma recette était excellente. C'est sûr que j'ai suivi à la lettre celle de ma grand-mère, donc ça se pourrait qu'elle ait une petite part de responsabilité dans le fait que mon potage était excellent. Non, mais comprenez-vous, c'est une blague. Mais j'ai même pas suivi ma propre recette. C'est ma grand-mère, ça serait le fun que j'y donne le petit crédit. Toujours reconnaître ses forces chaque soir. Gardons trois choses qu'on a acquis, qui est bon en nous, trois choses qu'on a améliorées, on s'assure d'avoir une estime beaucoup plus réaliste, beaucoup plus juste, qui ne dépendra pas de ce qui s'est passé nécessairement dans notre journée en termes de faits. On va juste toujours garder une zone très individuelle de notre estime. Et faites attention de ne pas utiliser le biais d'autocomplaisance sur les autres pour les protéger. C'est pas de ta faute, c'est lui. C'est pas de ta faute, elle.
Ouais.
Pas de ta faute, c'est un mauvais timing. Faites attention. Puis les faits de groupe aussi, ça s'entraîne ces affaires-là. Hein. Et dans une équipe de sport, c'est l'arbitre. Pas nous autres. Une équipe de génies en herbe. L'arbitre, c'est pas nous autres. Soyez celui qui relativise et sortez toute votre équipe du biais d'autocomplaisance.
Mesdames et messieurs, Emmanuel Robitaille. Thank you.
le guitariste français Birilly Lagraine. Et je l'aime ça, Birilly Lagraine avec la pièce Belleville. Lui qui sera en spectacle ce soir dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. C'est au Jésus. Et c'est à 18h, et ceux qui se posent la question, est-ce que le Jésus est une salle accessible dans la foire aux questions? C'est la première question, et je vous lis la réponse telle quelle. L'accès au hall d'entrée se fait à l'aide d'un monte-escalier pour personnes en fauteuil roulant conventionnel non motorisé. En saison, tout accès avec un équipement motorisé peut se faire via le monte-charge. Il y a 6 places en tout pour 3 fauteuils et 3 accompagnateurs.
Super, parce que avec ça, Birilly Lagraine, c'est du bonbon, hein,
ah,
dans
vraiment,
le domaine.
C'est
hein.
vraiment extra, ça.
Dans le manouche, là, c'est vraiment
et c'est dans le cadre d'un spectacle hommage à Django, donc
ben oui.
L'inspiration, oui, bien sûr. On ne peut pas dissocier Birilly Lagraine.
Mais non, c'est sûr. Alors, mon petit François... on s'en va vers quoi maintenant?
Eh bien, on s'en va vers justement des bouquins l'été.
Oui.
Les bouquins l'été, on s'en souvient tous, on a tous lu des bouquins quand on était petit. Véronique Audy, vous êtes avec nous?
Oui, oui.
Ah, bonjour Véronique Audy.
Bonjour.
Vous êtes agente de développement culturel pour le MRC d'Athabasca, d'Arthabasca.
Oui, exactement. Je suis agente de développement culturel pour la MRC d'Arthabasca.
Et alors, la caravane des bouquineurs qui reprend la route pour la 4e saison? Ça devient une tradition, mais qu'est-ce que c'est?
Oui, en fait, la caravane des bouquineurs, c'est justement une caravane qu'on équipe avec des jeux, des livres, du matériel de création aussi. Et on se promène dans les parcs pendant l'été, autant à Victoriaville que dans les municipalités de la MRC d'Arthabasca.
Et on peut les emprunter comme ça et s'arrêter?
Non, c'est vraiment de la lecture sur place, c'est pas une bibliothèque.
C'est ça, on les prend dans la caravane et on les lit, on s'assied là, à côté, par terre ou...
Exactement. Nous, on a des chaises de parterre, des tapis, des parasols. Quand on s'installe dans le parc, tout est aménagé.
Ah, tout est prêt. Pas besoin de venir avec son parasol.
Non. Puis souvent, on est installé aussi dans des parcs où il y a des commodités, là, des tables de pique-nique. Donc, c'est ça, les gens, dans le fond, c'est un moment de détente qu'on offre aux gens. C'est un moment aussi en famille. On s'adresse beaucoup aux familles. Donc, on a des livres pour enfants, on a des jeux pour la famille aussi. Donc, les gens viennent s'installer. C'est un moment agréable à passer en famille.
Est-ce qu'il y a des livres pour adultes aussi, pardon, François?
Oui, oui hein? Il y a quelques livres pour adultes. On s'est rendu compte au cours des années, par contre, que c'était surtout les familles qui fréquentaient. Parce que les adultes, souvent, pour le temps qu'on est là, ils n'ont pas le temps de lire un roman.
Non, c'est sûr.
Ça, j'imagine.
Non, mais par contre, ça peut leur donner le goût de le poursuivre chez eux. Donc,
exactement.
Ça pourrait être une bonne idée quand même.
Oui, on en a surtout des auteurs de la région, justement, pour faire découvrir. Mm-hmm. On a aussi des revues. Donc, les parents qui viennent avec des enfants, ils ne sont pas laissés pour compte non plus. C'est plus des revues que les gens, que les adultes prennent.
Et est-ce que vous avez des séances de lecture publiques?
Il y a certaines animations, oui, parce qu'en fait, la caravane, c'est deux animatrices qui sillonnent les routes de la MRC. Et oui, dans le fond, les animatrices sont là aussi pour animer les familles. Il y a des animations aussi, des organismes de la région qui viennent se présenter, faire des animations. On a des activités de création aussi.
OK, c'est
donc,
vrai?
Oui.
Création littéraire pour les jeunes, par exemple? On leur apprend à inventer une histoire ou...
En fait, création, ça peut être autant un sport pour faire des bulles géantes, ça peut être la peinture au sol, ça peut être création de signets, de marque-pages. On a aussi une machine pour faire des macarons, donc création de macarons littéraires.
Oui.
Donc, on invite les gens à écrire un petit poème sur un macaron. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment différentes animations.
Est-ce qu'il peut y avoir un projet d'écriture pour les adultes? Parce que ça, c'est il me semble que c'est de plus en plus à la mode, hein, ces ateliers d'écriture comme ça.
Oui, ça on en fait, mais plus en bibliothèque. Parce qu'extérieur, nous, c'est vraiment des moments plus ludiques. C'est pas très didactique.
Mm-hmm.
Et le temps qu'on est à l'extérieur, c'est environ 2-3 heures dans le parc.
D'accord, ça c'était questions, c'est ça.
Oui,
donc 2-3 heures à peu près. Parfait.
Exactement. C'est souvent en avant-midi. On est là, on s'installe un 3 heures environ. Donc c'est sûr qu'il y a des ateliers vraiment plus poussés, c'est plus difficile dans le contexte. Par contre, dans d'autres projets, on en fait en bibliothèque.
La municipalité, ben, je veux dire, la MRC d'Arthabasca est toujours très, très, grouillante d'activités comme ça, culturelles. L'an dernier, j'avais accueilli ici un ami et qui était devenu aussi un chroniqueur qui nous parlait souvent de tout ce qui se faisait à Victoriaville et dans la région. Mm-hmm. Entre autres, bon, on sait qu'aussi c'est une ville qui fait beaucoup pour l'accessibilité auprès des personnes handicapées. Alors là, c'est sûr que dans les parcs, si des enfants sont handicapés ou des adultes, là, il n'y a comme pas de problème pour les recevoir.
Non, il n'y a vraiment aucun problème. Bon. On est toujours un endroit quand même assez accessible pour tout.
Bon. Quelles sont, du moins quelques-unes, des municipalités qui vont accueillir la caravane des bouquineurs?
Oui, pour cette année, les municipalités où on va aller à Nord, Notre-Dame-de-Ham, Kings-Effort, Saint-Albert, Saint-Christophe-Tarthabasca, Saint-Samuel, Sainte-Élisabeth, Tinouic et Warwick. Et évidemment, Victoriaville, on est là tous les vendredis au réservoir Bourdais. Puis c'est ça, il y a 22 municipalités dans la MRC, donc d'une année à l'autre, on essaie d'alterner pour que tout le monde puisse recevoir la caravane.
C'est grâce à quoi? Est-ce que c'est la mairie de Victoriaville qui a mis ça sur pied ou vous avez eu de l'aide de quel... organisme.
Bien, en fait, c'est un projet conjoint, Mercer-Tarthabasca et Ville de Victoriaville, et c'est dans le cadre de l'entente de déploiement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, et c'est sûr que ce projet-là ne pourrait pas exister si on n'avait pas la collaboration aussi d'un concessionnaire, donc qui est la CAR Chrysler, qui nous prête le véhicule pour l'été.
La Dodge, hein? Allez, disons-le, ben oui.
Oui.
Et puis, vous avez aussi l'aide d'une écrivaine, Véronique Pépin.
Oui, bien, en fait, c'est la coordonnatrice du projet et une des deux animatrices aussi. Donc, elle s'occupe beaucoup aussi des camps de jour. Donc, tous les lundis dans les municipalités, en fait, on accueille les camps de jour et on fait des animations de création avec eux.
Eh bien, voilà, ça s'appelle la caravane des bouquineurs qui reprend la route pour une quatrième saison. On va vous souhaiter un bel été au milieu des parcs de la MRC d'Arthabasca.
Oui. Et si les gens veulent voir l'horaire, ils peuvent aller sur Facebook. En fait, tout l'horaire est là et le consulter avant de venir. Des fois, si fait pas très, très beau, c'est sûr qu'on va annuler la
On fait quoi? On fait caravane bouquineur?
Oui, caravane des bouquineurs et vous allez le trouver facilement.
Et d'accord. Et s'il pleut, donc, ce sera écrit que c'est annulé.
Ou sinon, il y a un plan B. Des fois, c'est à l'intérieur, mais c'est vraiment d'aller voir la page Facebook avant de se déplacer.
Merci infiniment. Je rappelle votre nom,
merci
Véronique Audi, agente de développement culturel pour la MRC d'Arthabasca. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Start to sing, Laila.
Oh, oh, oh.
Now you're singing with a swing.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing, Laila. Oh, oh, oh.
Now you're singing with a swing. Start to sing,
la-i-la, wo-wo-wo, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. La-i-la, wo-wo-wo, now you're singing with a swing. And when the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know, ho-ho, baby, ho-ho-ho. Sing, 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 everybody start to sing.
Christine Tassin et les imposteurs qui nous offraient douce ambiance, Sing Sing Sing, reprise de grands classiques tirés de leur EP Django and Friends. Christine Tassin et les imposteurs qui ont eu l'amabilité de nous offrir une de leurs pièces qui sert d'indicatif à cette émission.
Merci de l'avoir rappelé, cher ami. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'elle ne soit pas de la soirée avec Birelli Lagraine. Je sais que Christine Tassin nourrit une véritable passion pour le travail de Birelli, et on le sait pour Django Reinhardt, puisque ces filles-là, c'est un groupe de filles, hein, sont les seules filles en Amérique du Nord qui font du manouche, et évidemment elles reprennent énormément de titres
De Django.
De Django, bien sûr.
Elles seront néanmoins dans le cadre du festival de jazz le 4 juillet au Dièse 11 à 19h.
Oui, ça, c'est... ne ratez pas ça, puis l'ambiance est géniale, puis on y mange bien, puis en tout cas tout ça. C'est fini, mon petit François, ça passe du vite.
Ça passe très vite, finalement.
Une heure et demie. Ouais. Comment ça, finalement? À chaque fois, ça vous fait peur? Vous vous dites, oh mon Dieu, ça va être long? Non.
Pas du tout.
Hein? C'est non, comme un bon film.
Ouais, tout hein? à fait.
C'est comme un bon film très varié qui passe comme ça tous les jours. C'est Aime l'été, ça se passe... Ça se passe sur Canal M, et c'était animé aujourd'hui pour vous par François Baruel et Clotilde Seille. Mon petit François, passez une belle journée, j'espère que vous allez profiter du beau temps.
Ah oui, c'est le programme.
Au revoir tout le monde, profitez-en bien.
Au revoir.
Salut, bye.